de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Contact de ministres iraniens des Affaires étrangères. Retno s'inquiète de la stabilité du Moyen-Orient. L'ambassade d'Indonésie à Dama prépare un scénario d'évacuation pour les citoyens indonésiens. Le gouvernement indonésien prépare une politique pour prévenir l'impact économique du conflit Iran-Israël. Migration de la radio numérique en accord au niveau mondial, a affirmé DPR. Les membres du DPR ont demandé au gouvernement de se méfier de la hausse des prix du pétrole. Trois athlètes indonésiens de canoë s'affrontent pour remporter des billets olympiques via la CC. Voici le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a discuté par téléphone de la situation au Moyen-Orient avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, lundi 15 avril. Ces pourparlers ont eu lieu dans un contexte de tension croissante dans la région, en particulier après que l'Iran a lancé une attaque de représailles sur le territoire israélien le week-end dernier. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a souligné sur le compte des réseaux sociaux de X que sa partie avait fait part de son inquiétude face à la situation préoccupante au Moyen-Orient et a appelé tous les pays concernés à faire preuve de retenue et à apaiser les tensions. Elle a également admis avoir contacté un certain nombre de ministres des Affaires étrangères au Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, et en Europe, comme les Pays-Bas et l'Allemagne. Elle a appelé ces pays à faire pression sur l'Iran et Israël pour qu'ils ne tombent pas dans la guerre. Dans sa communication avec le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, et d'autres responsables du continent bleu, Retno Marsudi a souligné que la guerre n'apporterait aucun bénéfice. Auparavant, le ministre indonésien des Affaires étrangères a également exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à agir immédiatement pour réduire les tensions et poursuivre les efforts visant à instaurer la paix au Moyen-Orient. L'ambassade d'Indonésie à Dama a déclaré le statut d'alerte ensuite aux tensions entre l'Iran et Israël. Le gouvernement indonésien a préparé un scénario d'urgence si la situation en Israël s'aggrave. L'ambassadeur indonésien en Syrie, Wajid Fauzi, dans sa conversation avec RRI lundi soir 15 avril 2024, a déclaré que les conditions actuelles à Dama étaient bonnes. Il a confirmé que la situation et la sécurité en Syrie sont actuellement sous contrôle après l'attaque iranienne contre Israël dimanche 14 avril 2024. Wajid a admis que sa parti avait préparé un certain nombre de scénarios au cas où la situation en Israël se détériorait en raison d'une attaque iranienne. L'une d'elles consiste à évacuer les citoyens indonésiens en Syrie en impliquant des représentants de l'ambassade indonésienne dans divers pays du Moyen-Orient. Wajid a également appelé les citoyens indonésiens en Syrie à continuer d'accroître leur vigilance et a demandé aux citoyens indonésiens en Syrie de faire preuve de sagesse en prêtant attention aux aspects de sécurité. Le ministre coordinateur des Affaires économiques, Erlangga Hartarto, a déclaré que le gouvernement préparait un certain nombre de politiques stratégiques pour garantir que le conflit Iran-Israël n'ait pas d'impact significatif sur l'économie nationale. Il a déclaré lundi à Jakarta que le conflit risquait d'augmenter les prix de divers produits, dont le pétrole, en raison de perturbations de l'approvisionnement. Erlangga a expliqué que l'augmentation des tensions géopolitiques dans la zone autour du canal de Suez perturberait également la chaîne d'approvisionnement en blé et en composants d'équipement de production importés d'Europe et augmenterait les coûts de fret. Il a souligné qu'il devait prendre des mesures anticipées. Le ministère de coordination des affaires économiques a également tenu lundi une réunion avec un certain nombre d'ambassadeurs des pays amis. Selon Erlangga Hartarto, l'économie indonésienne est encore relativement forte avec une croissance économique toujours maintenue au-dessous de 5% et une inflation sous contrôle. Vice-président de la Commission 1 de la Chambre des représentants d'Indonésie, DPR RI, Abdul Haris Al-Mashari, soutient la transformation de la radio numérique en Indonésie. Cité par RRI lundi 15 avril, Haris a déclaré que les émissions de radio Indonésie doivent pouvoir suivre le développement actuel. Il a déclaré que dans les pays développés, la radio est déjà sur une plateforme numérique. Haris est optimiste quant au fait que la révision de la loi sur la radiodiffusion sera achevée cette année, car le DPR RI pour la période 2019-2024 compte encore de sessions plénières. Lors de la discussion sur la révision de la loi sur la radiodiffusion, Haris a déclaré que le projet était déjà entre les mains de l'organe législatif de la DPR. Le projet fera alors l'objet d'un processus d'harmonisation et de synchronisation. Membre de la Commission 7 de la Chambre des représentants indonésienne, Mulyanto a demandé au gouvernement d'anticiper une augmentation des prix mondiaux du pétrole brut après l'attaque iranienne contre Israël. Mulyanto a déclaré lundi à Jakarta que tôt ou tard, le conflit Iran-Israël aurait un impact sur la hausse des prix mondiaux du pétrole brut. Selon lui, cette situation est aggravée par l'affaiblissement du taux d'échange de la roupie par rapport au dollar américain qui atteint 15 000 roupies par 1 dollar américain. Il a souligné que le gouvernement doit immédiatement réfléchir à des mesures anticipatives. Il a ajouté qu'en tant qu'un pays importateur net de pétrole et de gaz, une augmentation des prix mondiaux du pétrole et du gaz aurait un impact négatif sur la PBN. De plus, cette augmentation a coïncidé avec une augmentation de la demande intérieure et une flambée du taux d'échange de dollar par rapport à la roupie. Cependant, Mulyanto a demandé que le gouvernement ne prenne pas de mesures anticipées pour adopter des options politiques qui nuiraient aux petites gens comme l'augmentation du prix du fuel ou du gaz GPL subventionné. Trois athlètes indonésiens de canoë, Dayumin, Nurmeni et Selamonim se disputent des billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024 à travers les épreuves de qualification qui se dérouleront au championnat asiatique de canoë de vitesse et aux qualifications olympiques de la CC ou Asian Canoe Confederation 2024. Dayumin participera à l'épreuve individuelle féminine de 200 mètres, tandis que Nurneni et Selamonim participeront à l'épreuve de canoë double féminin 500 mètres. Lors du championnat qui se déclenchera au Sea Forest Waterway dans la baie de Tokyo au Japon du 18 au 21 avril. L'entraîneur indonésien de canoë pour le numéro individuel féminin, Andri Kreitor, a déclaré dans un communiqué officiel lundi 15 avril que Dayumin avait montré une performance prometteuse pendant 4 semaines d'entraînement avec les athlètes nationaux de Géorgie, Europe Est et Asie-Ouest et médaillés olympiques d'Ukraine à Antalya en Turquie. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre « Ajustement du système de travail de l'appareil civil de l'État après les vacances ensemble de l'Aïd al-Fitr ». Les musulmans d'Indonésie et du monde entier viennent de célébrer l'Aïd al-Fitr, ou mieux connu en Indonésie sous le nom de Lebaran. C'est devenu une tradition selon laquelle les musulmans d'Indonésie célèbrent Lebaran avec des proches dans leur ville natale ou bien connu sous le nom de Mudik ou Retour à la maison. Afin d'offrir aux musulmans, en particulier à l'appareil civil de l'État, ASN, ou aux fonctionnaires, ou PNS, la possibilité de célébrer cette fête, le gouvernement a fixé un congé ou un congé collectif pour le Lebaran 2024 de 6 jours. Couplé au congé de week-end de 4 jours, les vacances totales de l'Aïd al-Fitr atteignent 10 jours. Cependant, après les vacances, le gouvernement a ajouté des jours de congé et a autorisé les fonctionnaires du service non public à travailler à domicile ou WFH pendant 2 jours. Citant un communiqué officiel du ministère de l'Utilisation des appareils d'État et de la réforme bureaucratique, ou PAN-RB, le ministre du PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, a publié mardi une disposition concernant la combinaison des tâches officielles au bureau ou travail au bureau, WFO, et tâches officielles à domicile ou WFH pour les fonctionnaires, mardi et mercredi, les 16 et 17 avril 2024. La disposition de WFH FH pour les fonctionnaires après l'Eid al-Fitr 2024 est contenu dans la lettre circulaire du ministre du PAN-RB numéro 1 de 2024. Cette réglementation s'applique aux agences de services non publics avec un nombre maximum d'employés de la WFH de 50%. Pendant ce temps, les institutions de services publics continuent de travailler à 100% depuis le bureau, comme la santé, la sécurité et le droit, ainsi que les services publics de base. Bien entendu, il y a une raison pour laquelle le gouvernement applique cet arrangement. Cet arrangement est apparemment dû au fait que lors du flux de retour de Lebaran 2024, l'augmentation du volume de véhicules est très forte, en particulier sur l'île de Java. Comme les années précédentes, le retour des voyageurs de leur ville d'origine vers les villes où ils vivent et travaillent est devenu un problème annuel. Par exemple, les embouteillages sont inévitables puis que les voyageurs reviennent simultanément en ville. On espère que la mise en œuvre de la politique de travail à domicile, en particulier pour les fonctionnaires non publics, pourra surmonter et dénouer les embouteillages lors du retour de leur barang, réduire la fatigue due à l'impact de l'embouteillage qui peut entraîner des accidents et une diminution de performance de l'appareil civil d'État. C'est le temps, c'était le commentaire pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 16 avril 1952, formation du commandement des forces spéciales ou COPASUS. COPASUS fait partie du commandement de combat principal de l'armée indonésienne, dirigé par un général de 2 étoiles ou général de division. La fondation de COPASUS a été motivée par les événements de juillet 1950, lors de la rébellion au Molouk par un groupe se faisant appeler RMS ou République des Moluques du Sud. Les dirigeants des forces armées indonésiennes ont alors déployé des troupes pour écraser ce groupe. Cette opération était dirigée directement par le commandant de l'armée territoriale 3, le colonel A.E. Kawilarang, tandis que le lieutenant-colonel Slamet Riyadi était nommé commandant des opérations. Cet incident a finalement inspiré le lieutenant-colonel Slamet Riyadi à être pionnier dans la formation d'une unité de frappe capable d'être déplacée rapidement et précisément pour faire face à diverses cibles sur le champ de bataille. Après la mort du lieutenant-colonel Slamet Riyadi, cette idée a été poursuivie par le colonel A.E. Kawilarang. Par l'instruction du commandant de l'armée et du territoire 3, numéro 55, INSTR, POS 52, du 16 avril 1952, l'unité de commandement territorial 3, ou connue sous le nom de COPASUS, a été créée. Passons maintenant à l'événement du 16 avril 1972, Yasunari Kawabata est décédé. Né à Osaka le 14 juin 1899, Yasunari Kawabata, ou mieux connu sous le nom de Kawabata, est un célèbre romancier japonais qui a produit diverses œuvres célèbres. Outre l'écriture de fiction, il a également travaillé comme journaliste, principalement pour le Mainichi Shimbun d'Osaka et de Tokyo. En 1968, Kawabata devient le premier Japonais à recevoir le prix Nobel de littérature. Le prix était décerné pour la maîtrise du récit qui révèle avec une sensibilité extraordinaire l'essence de la pensée japonaise. Le comité Nobel a cité ses trois œuvres principales, Le Pays des Neiges, des Mille Grues et de la Vieille Capitale, lors de l'attribution du prix Nobel. Kawabata s'est suicidé le 16 avril 1972 en s'empoisonnant au gaz. Cependant, un certain nombre d'amis proches et de parents, dont son épouse, considéraient sa mort comme un accident. Thank you. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 16 avril 2007, massacre de Virginia Tech. Le 16 avril 2007, un étudiant sud-coréen a commis une fusillade sur le campus de Virginia Tech en Virginie, aux États-Unis. L'événement dont on se souvient sous le nom de massacre de Virginia Tech a coûté la vie à 32 personnes, y compris un tireur. La fusillade à Virginia Tech fait de cet incident l'une des fusillades civiles les plus sanglantes de l'histoire des États-Unis. L'un des citoyens indonésiens victimes du massacre de Virginia Tech, à savoir Partahi Mamora Alomuan Lumbantoruan de Medan, nord de Sumatra, doctorant à la faculté de génie civil. C'est Jurita, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Terluka karena cinta, lupakanlah dia yang telah pergi. Oh, dan yakinlah di hati, semuanya kan berganti. Temukan lagi bahagia. Kadang langit malam tak berbintang, namun esok kan bersinar terang.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie intitulée « Prêtez attention à l'escalade du conflit au Moyen-Orient ». L'Indonésie prépare une stratégie pour anticiper l'impact économique. Avec moi, Audrey. Cher Jouitard, le conflit au Moyen-Orient s'intensifie actuellement avec les représailles de l'Iran contre Israël dimanche 14 avril. L'Iran a déclaré que l'attaque était une réponse à l'attaque israélienne qui a détruit le bâtiment du consulat iranien à Damas, en Syrie, le 1er avril 2024. Citant econ.go.id en réponse à cette situation et afin de prendre des mesures anticipatives, le ministre coordonnateur des Affaires économiques, Erlang Artanto, a tenu une réunion limitée avec tous les éléments du député du ministère coordonnateur des Affaires économiques ainsi qu'un certain nombre d'ambassadeurs le lundi 15 avril 2024. Le ministre coordonnateur Erlanga a révélé que l'impact ou escalade du conflit sur le marché financier indonésien ne serait visible qu'à l'ouverture du marché le 16 avril. Toutefois, des mesures anticipées seront préparées pour maintenir la confiance du marché quant à l'impact potentiel de la hausse des prix des matières premières, en particulier du pétrole en raison de perturbations de l'approvisionnement ainsi que de la hausse du prix de l'or en tant qu'actif, refuge ou option d'investissement à faible risque et les retombées sur d'autres secteurs. Le ministre coordinateur Erlanga a également déclaré que le conflit entraînerait également une perturbation de la chaîne d'approvisionnement via le canal de Suez, ce qui aurait un impact direct au moins sur l'augmentation des coûts de frais. Les produits concernés comprennent le blé, le pétrole et les composants d'équipements de production en provenance d'Europe. Fondamentalement, l'économie indonésienne est encore relativement forte. La croissance économique étant toujours maintenue au-dessus de 5%, avec une inflation maîtrisée. En février 2024, la balance commerciale de l'Indonésie était toujours excédentaire et soutenait les réserves de change, qui lors de leur dernière position en mars 2024 était encore forte. Erlanga a assuré que le gouvernement ne resterait pas silencieux et préparerait un certain nombre de politiques stratégiques pour garantir que l'économie nationale ne soit pas davantage affectée. Selon lui, le niveau de confiance du marché dans la capacité de l'économie nationale à répondre à l'impact de l'escalade du conflit doit être maintenu. Les discussions sur un certain nombre de réponses politiques lors de la réunion comprendraient celles liées à la réponse à l'impact des conflits au niveau régional et mondial, à la performance du secteur bancaire et des marchés des capitaux, au contrôle de l'inflation, ainsi qu'au plan de coordination de la politique budgétaire et monétaire, se mêler aux autorités compétentes pour les stratégies de contrôle des taux de change et la gestion du déficit budgétaire. Erlanga a appelé les acteurs du marché à rester calmes et à ne pas prendre de mesures spéculatives. Selon lui, le gouvernement continuera de prêter une attention particulière aux développements mondiaux et régionaux existants et prendra des mesures fortes et ciblées pour maintenir la stabilité du système financier. Le ministre coordinateur Erlanga a souligné que, grâce à une réponse politique mesurée de la part du gouvernement, on espère qu'il sera en mesure d'atténuer correctement l'impact de l'escalade actuelle du conflit mondial. Bon, chers auditeurs, c'est tout, mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
saja sudah kurencanakan. Hari ini aku yang punya.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter Keranjang Sultan ou le panier de Sultan. Keranjang Sultan Situ Gunung ou le panier de Sultan Situ Gunung récemment devenu viral parce que sur son compte Instagram personnel @WillSmith, il a lancé une vidéo du conte et Asep Mulyanadam. La vidéo montre plusieurs résidents montant le panier du sultan à Situ Gunung dans le parc national Gunung Gede Pangrango Sukabumi, Java Occidental. Dans ce contenu, Will Smith demande l'emplacement de manège dans les attractions touristiques. Où est-ce? Keranjang Sultan est une chaise suspendue en forme de panier en rotant. Au lieu d'être utilisé pour s'asseoir et se détendre, Keranjang Sultan fera monter votre adrénaline. Des chaises en rotant traverseront la rivière sur un parcours de 5 mètres de long. Cette chaise Sultan est très sûre pour les touristes parce qu'elle est attachée à une corde en acier et utiliser un moteur de moto pour la déplacer. Ce trajet peut être trouvé avant le voyage de retour depuis le pont suspendu. Et vous essayant sur cette chaise en rotant, vous pourrez profiter de la beauté de la nature, des vues sur la rivière, les rochers et les arbres qui l'entourent. Il y a 4 paniers fournis et les touristes peuvent les monter en alternance. Il faut donc faire la queue pour pouvoir profiter de la sensation de cette chaise coulissante. Keranjang Sultan Situ Gunung est situé dans la zone touristique du pont suspendu. Le coût de l'utilisation du panier Sultan Situ Gunung Sukabumi comprend le paiement du prix du billet VIP pour le pont suspendu de 5 000 rupiah. Les touristes qui achètent les billets VIP auront également la possibilité de conduire une moto, de recevoir un verre de bienvenue et une collation, puis de traverser un pont suspendu. Les détenteurs d'un billet VIP pour le pont suspendu n'ont plus besoin de payer et peuvent immédiatement ressentir la sensation d'être suspendu au panier du sultan. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta, intitulé Keranjang Sultan ou le panier du sultan. Merci à tous, à bientôt.
Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana. Laki-laki tak layak ditangisi karena masih banyak yang lain di pantai ini. Dari Amerika, Barcelona sampai Jakarta, pria berlimpah berbagai warga negara. Namun apabila tak satu pun dirasa layak untukmu, ku selalu di sini menanti kasihmu. Kau nyaris tanpa celah di hadapan. Tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasiku. Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana.
di hadapanku. Tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasiku. Selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute! Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. C'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa ou l'île Karimun Jawa. Bonne écoute! Chers auditeurs, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien, Pulau, intitulé Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa, île Karimun Jawa. Cette conversation a lieu entre Chris, un vlogueur australien, et l'office. Chris réalise un vlog sur l'île de Karimun Jawa. Bonne écoute.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Chers auditeurs, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui intitulé Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa, île Karimun Jawa. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Saat ini, cette fois. Berada, berada, e, ou être. Di pesisir, sur la côte. Pulau Karimun Jawa, l'île de Karimun Jawa. Saya saat ini berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. En français, actuellement, je suis sur la côte de l'île de Karimun Jawa. Bersama. Bersama, avec. Beliau. Beliau, il ou lui. Petugas. Petugas, officier. Taman Nasional. Taman Nasional, Parc Nasional. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu les mots « Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa ».« Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa ».
En français, je suis actuellement sur la côte de l'île Karimun Jawa. Dans ce discours, il y a le mot pesisir, pesisir, côtier, qui signifie terrain plat et sablonneux sur la plage. Pesisir. Pesisir ou côtier est un mot couramment utilisé dans des contextes liés à la nature. Le mot pesisir, pesisir, côtier, dans ce discours est utilisé par Chris pour décrire un lieu de la zone côtière de l'île de Karimun Jawa. Chers amis, allons écouter un autre exemple. Il y a d'autres exemples de mots ou d'expressions liées à la nature. Par exemple, terumbu karang. Terumbu karang, récif corallien. Terumbu karang di Karimun Jawa sangat indah. Terumbu karang di Karimun Jawa sangat indah. Les récifs coralliens de Karimun Jawa sont très beaux. Hutan bakau. Hutan bakau, forêt de mangrove. On peut explorer la forêt de mangrove à Karimun Jawa. On peut explorer la forêt de mangrove à Karimun Jawa. En indonésien, kita bisa menjelajah hutan bakau di Karimun Jawa. Sergetar, en plus d'être une réserve naturelle, le parc national de Karimun Jawa possède de nombreuses attractions touristiques. Les plages et l'habitat sous-marin sont très beaux. Dans les temps anciens, Karimun Jawa était connu sous le nom de Caraïbes de Java, sous le nom de Caraïbes de Java. Chers amis, avant de terminer l'émission d'apprendre indonésien, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Bonjour Jetar, voilà l'émission d'apprendre l'indonésien pour cette fois. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Mabuk asmara. Voice of Indonesia.
Kau tempatku berteduh dari segala lelahku. Kau mampukan aku. Kau bagan liriku dari setiap nadaku. Kau melengkapi laguku.
C'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33,5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bon, écoute.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Cette fois-ci, je joue une chanson malaise intitulée « Joget Indragiri » chantée par Bima Tresna et Radhika. Cette chanson a été composée par Andrigo PS. Cette chanson raconte d'un amour romantique au milieu de la ville de Rengat, la région Indragiri Hulu, Riau. La chanson est incluse dans l'album « Zapin Marwah in Hu ». Bon, chers auditeurs, voici Joget Indragiri de Bima Tresna et Radhika. Bonne écoute!
Jangan marah-marah, abang telah datang membawa berlian.
Hanji abang, bukan marah-marah, hati tidak pernah rindu pun berat.
Hanji adik, jangan marah-marah.
Hai,
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.